19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver dans les informés. On est ensemble jusqu'à 20h, ensemble pour décrypter, analyser l'actualité. Et au sommaire, au menu, jusqu'à 20h, nous sommes ensemble à la fois pour parler, vous savez, de cette inquiétude grandissante concernant les enseignants. Un an après la mort de Samuel Paty, des enseignants inquiets sur le mode d'emploi, sur la laïcité. Oui, on va en parler tout à l'heure. Et sur ensuite, après, nous reviendrons, je vous le disais, depuis le début de cette semaine, il est question de faire des spéciales. Spécial concernant le 17 octobre 1961, c'est une première aussi sur BFM. Toute cette semaine, nous traiterons encore et plus que jamais la mémoire d'un crime français longtemps occulté. Et puis, nous irons en direction, vous savez, tout à l'heure, au standard 01 53 48 3000 pour vous laisser la parole et venir et vous exprimer sur un sujet que vous avez souhaité d'ailleurs que je prolonge. Éric Zemmour est-il un danger pour notre République? Certains disent non, d'autres disent oui. D'autres sont pro-Zemmour, certains sont anti-Zemmour, certains sont indifférents. Eh bien, nous en parlerons, 01 53 48 3000 à partir de 19h15. Le face-à-face est à 19h30 jusqu'à 20h. Et à 19h30, précise, Pascal Boniface et son billet d'humeur et sa carte blanche. Les informés, c'est parti et plus que jamais, oui, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu, c'est maintenant.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Nader Chibani. Bonjour.
Bonjour, Kader Chibani.
Excusez-moi, pourquoi j'ai dit Nader? Nader, j'ai dit.
C'est pas grave.
Non, vous avez quoi? Non, du tout. Non, c'est pas ça du tout. Je sais pourquoi. Kader, merci d'être avec nous. Vous êtes alors effectivement avec nous pour parler d'un sujet. C'est celui du 17 octobre 61. Je le disais encore plus que jamais. Kader Chibani, vous avez plusieurs casquettes, hein? Conseiller régional Île-de-France, Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseiller municipal de Saint-Denis, membre de l'association éminente du Cercle de Réflexion Citoyen, avec laquelle vous organisez la commémoration à Saint-Denis depuis 20 ans maintenant.
Tout à fait.
20 ans. Alors, 20 ans, c'est un bel âge aussi quand on voit que... Qu'est-ce que vous avez prévu de fêter pour les 60e anniversaire du 17 octobre 61?
On est assez traditionnel, donc nous on sera à la gare. Donc la gare, il y a une place, c'est la place des victimes du 17 octobre 61.
Oui.
Il est important de dire aux jeunes générations, à vrai dire on le fait pour les jeunes générations, pour ceux qui ne savent pas.
Ouais.
Parce que c'est pas dans les manuels scolaires, personne n'enseigne à l'école. C'est une date encore qui est méconnue.
Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes générations? Vous leur dites quoi? D'ailleurs,
moi je dis souvent...
Ils vous disent quoi d'abord? On connaît pas?
Bah déjà ils sont très surpris, ensuite ils sont pris aux tripes. Et moi, je leur dis souvent, n'ayez ni haine ni rancœur pour votre pays, parce que ils sont aussi français, d'origine algérienne pour certains, et français. Je leur dis, n'ayez ni haine ni rancœur. L'important, c'est la reconnaissance. C'est que vos ancêtres, vos parents soient reconnus au même titre que d'autres. Moi, je ne crois pas à la concurrence des mémoires. Hein, je crois que toutes les mémoires doivent être reconnues, toutes les souffrances doivent être reconnues. Et c'est ce que nous attendons, surtout que c'est une des pages majeures politiques de la 5e République, République française. Parce que depuis 60 ans en France, je crois que c'est 20 ans, un peu moins de 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu un tel massacre au cœur de Paris, perpétré par les forces de l'ordre, hein, par la police française. Hein.
C'est le mot, massacre. Oui.
Hein, c'est un massacre perpétré. Alors à la houlette, il y avait un Maurice Papon, un récidiviste, un professionnel en la matière, mais il n'était pas seul. On ne va pas résumer ça à Maurice Papon. Il était couvert par le pouvoir politique de l'époque, que ce soit le Premier ministre Michel Debré ou le général de Gaulle. Donc il y a une responsabilité politique au plus haut niveau. Mmh. Et au cœur de Paris, on a jeté des Algériens à la Seine qui ne savaient pas nager, on le savait très bien. On les a massacrés au palais des sports, dans la cour de la préfecture de police. Ça a été caché pendant 20, 30 ans, près de 30 ans, personne n'en a parlé. Et puis, il a fallu des historiens, des gens travaillent sur cette question, en particulier Jean-Luc Kennedy, le regretté Jean-Luc Kennedy, qui a fait parler un certain nombre de personnes qui avaient vécu ces événements. Et moi, j'ai toujours une pensée quand on fait ça. Je pense aux enfants qui n'ont pas connu leur père, je pense aux veuves. J'ai une pensée pour ces personnes-là très dignes, qui finalement ne veulent pas la France. Elles n'en veulent pas la France. Elles veulent une reconnaissance. C'est pas la même chose.
Alors, normalement, moi, de ce que je sais, de ce que j'ai comme information, le chef de l'État, Emmanuel Macron, normalement, devrait s'exprimer sur ce massacre. Normalement. Mmh. Ça devrait être officiel dans les heures à venir. Dites-moi, le 17 octobre 1961, vous disiez tout à l'heure que votre association, elle organise hein, cet événement sur la ville de Saint-Denis depuis maintenant 20 ans. Alors, depuis 20 ans, c'est toujours la même mécanique, cher Kader Chiban ?
La même mécanique, oui, on prêche autour de nous. On n'a pas le pouvoir d'Emmanuel Macron. J'espère qu'il reconnaîtra, qu'il prendra sa responsabilité, qu'il ouvrira les archives, parce que c'est important.
Non, mais quand je dis la même mécanique, c'est-à-dire que il y a une place qui porte le nom des victimes du 17 octobre 1961, d'accord, à Saint-Denis. Oui. Est-ce que vous vous contentez simplement de vous rendre sur cette place du 17 octobre des victimes du 17 octobre 1961 ou est-ce que vous organisez des événements également en marge de cette place, en marge de cet événement, en dehors évidemment de cette commémoration, Kader Chiban?
Cette année, non. Voilà, cette année, il n'y a pas d'événement. Il y a des événements autour. Si vous voulez, le problème du 17 octobre 61, on faisait des événements importants il y a une dizaine d'années avec des projections de films. D'autres villes s'en sont emparées. Il y a une sorte de il y a beaucoup d'événements. Il y aura des choses à Épinay, à Saint-Ouen. Il y aura voilà même des choses à Saint-Denis. Mais nous, on marque le coup un peu comme le 8 mai 45, un truc très très officiel, très voilà. Nous, on souhaite vraiment la plaque, intervention, discours, que les gens viennent, que ça soit dans l'espace public. Ça nous paraît important de marquer cet événement de manière un peu traditionnelle et fort.
Et quel discours vous tenez aux jeunes pour qu'ils viennent justement vous voir, participer à cet événement?
Eh ben, on les rencontre. Alors, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont réseaux sociaux, mais on les rencontre aussi dans la rue. On essaye de jouer le bouche à oreille. C'est les familles. Des fois, vous savez, des parents emmènent leurs enfants, des frères emmènent leurs petits frères. Moi, je crois beaucoup à ce lien, voilà, de bouche à oreille. Et encore une fois, on leur dit que vous avez toute cette place dans cette société et que la mémoire de vos parents, elle doit être reconnue au même titre que d'autres.
Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, s'il nous écoute à tout hasard, ou s'il a des conseillers qui nous écoutent, ou si ça lui parvient, évidemment, si le message lui parvient. Qu'est-ce que vous avez principalement comme message à délivrer, justement, concernant l'éventuel discours qui pourrait s'annoncer dimanche prochain ?
Moi, je vais lui dire, soyez un
ça
grand président.
Ça serait historique, hein, s'il s'exprime, effectivement.
Non, soyez un grand président de la République. Ça va ne rien coûter à la société française. Hein, ça veut dire que ça creuse pas le déficit. Hein, il annonce souvent des milliards, c'est pas le cas. Ça va pas creuser le déficit de la France. Par contre, ne soyez pas l'otage de l'extrême droite, parce que l'extrême droite essaye de vous voyez bien le débat aujourd'hui qui existe. Elle est très à l'extrême droite. On ne parle que de ça. On ne parle voilà de l'exclusion, et donc. Prenez vos responsabilités, soyez à la hauteur de la France. La France, elle a eu des zones d'ombre, elle a des parts de lumière. Soyez du côté de la lumière. Reconnaissez une bonne fois pour toutes, pour que les gens vivent leur deuil tranquillement, simplement. Il n'y a pas l'envie d'en découdre. Hein. C'est l'extrême droite qui va en découdre. Nous, on est très pacifique, on est très serein. On souhaite la reconnaissance d'un massacre qui a existé au cœur de Paris.
C'est ce que vous souhaitez, la reconnaissance d'un massacre au cœur de Paris.
Tout à fait.
Le crime, exactement ça. Crime français.
Bah, c'est un crime d'État.
Est-ce que je peux vous dire qu'il a été un crime d'État ? Est-ce que je peux vous dire que ce crime, justement, a été longtemps occulté, volontairement ou délibérément, ou involontairement ? En tout cas, je vous pose la question.
Oui, il a été occulté délibérément. Comment voulez-vous que dans le pays des droits de l'homme, on reconnaisse que la police française a massacré des personnes en plein Paris 15 à 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, et que c'était Maurice Papon en plus, hein, quelqu'un qui sévissait déjà à la préfecture de police de Gironde, qui envoyait des juifs à Auschwitz. C'est pas une belle histoire. C'est pas une belle histoire, mais il faut la regarder en face, il faut l'assumer.
Donc en quelque sorte, Kader Chiban, c'est un long oubli.
Oui.
Du massacre des Algériens.
Oui, aussi long que les fleuves, que la Seine. Vous savez, parce que beaucoup d'Algériens sont morts sur la Seine. Bien évidemment, c'est un long combat. C'est pour ça que je vous disais que chaque année, on revient, on martèle. Ça peut sembler répétitif, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. La mémoire, elle est vivante. La mémoire, faut la faire vivre. Faut la faire vivre. Et je sais plus qui disait un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Je pense que c'est vrai. Quand on ne reconnaît pas derrière soi, quand on regarde pas les choses, quand on les assume pas, on peut pas avancer. On se ment à soi-même. Et la France, elle ne peut pas se mentir à soi-même, elle-même. Voilà. Et c'est la grandeur de la France que de reconnaître ça. Et si demain Emmanuel Macron le fait, ça sera tout à son honneur. On se souviendra de ça dans son quinquennat. On se souviendra de ça.
On se souviendra de ça.
Il sera réélu, au moins il gardera ça. sais pas s'il sera réélu par contre.
Dites-moi, Kader, je voudrais vous faire part d'un article, l'article journal Le Monde. Je vais lire quelques lignes. Le policier Raoult Le Tard raconte que des hommes de son unité spéciale d'intervention se livrèrent à Colombes à partir de 23h à une quête meurtrière. J'ouvre les guillemets. On tirait sur tout ce qui bougeait. C'était l'horreur. Pendant 2 heures, ça a été la chasse à l'homme. Je referme les guillemets. Paul Rousseau, un autre policier, fut témoin de tueries au pont de Clichy. J'en ai même vu des policiers qui ont tiré dedans et les ont balancés par-dessus le pont. Certains avaient du sang sur les mains. Ils en étaient fiers. Ils montraient leurs mains et disaient « Tu vois, on les a eus, nos bougnoules. » Quand je vous cite ça, comment vous réagissez, Kader Chimane?
C'est l'effroi. Entendre des mots pareils, ça fait froid dans le dos. Surtout quand c'est des policiers, ceux qui sont censés vous protéger. Mais je crois que le problème, c'est qu'ils avaient carte blanche. C'est ça qui est embêtant. Et le politique, il a toujours une responsabilité supérieure à ceux qui commettent les actes. Hein. Ils sont complices. Ils sont complices, ils sont responsables de ce qu'ils font. Mais on leur a dit, vous avez carte blanche. Lâchez-vous. Et ça, c'est indigne de l'État français, de la République française, je vous dis. C'est indigne.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui et qui se posent encore des questions ou qui, évidemment, savent pas comment en parler à leurs enfants, petits-enfants?
Non, mais je crois qu'il faut en parler simplement. Si vous voulez, on va pas faire le procès de la France. C'est pas ça l'idée. C'est pas dire ça. Tout le monde est méchant, tout le monde est dur. Il y a eu une dérive à un moment donné, pendant la guerre d'Algérie, au cœur de Paris. Le pouvoir politique s'est dit, on va pouvoir massacrer qui on veut, comme on veut, on va leur faire peur.
Oui.
Mais l'esprit, moi ce que je dis, c'est qu'il faut garder l'esprit du 17 octobre. Et l'esprit du 17 octobre, c'est ne vous résignez jamais, n'acceptez jamais les injustices. Et moi je crois qu'ils avaient beaucoup de courage. Je dirais à mes enfants, vous avez des gens qui ont manifesté sans armes, ils ont pris tous les risques, ils avaient beaucoup de courage. Et en face d'eux, les lâches étaient en face d'eux. Parce que quand on est armé, tirer sur des personnes, c'est lâche. C'est pas très vertueux, c'est plutôt lâche. Jeter des gens à la Seine, c'est lâche. Et donc, soyez du côté de ceux qui sont des justes. Ce sont des justes, ceux qui ont manifesté.
Encore, Kader Chimane, encore aujourd'hui, nul sait combien d'Algériens, d'ailleurs, à l'époque, puisqu'on disait français de musulmans d'Algérie, on ne sait pas encore combien d'Algériens sont morts.
Non, on ne sait pas. Il y a des estimations, quelques centaines, 200, 300. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas précisément. Vous savez, alors c'est intéressant de ça. Les gens ils disaient comment les historiens ont pu savoir. Ils ont été voir à la morgue. Vous savez, à la morgue. Et a priori, entre le 17 octobre, 18 octobre et le 30 octobre, il y a une explosion des morts des Nord-Africains qu'on a retrouvé quelques jours après, gisant sur la Seine. Donc on ne connaît pas précisément le nombre. Les historiens, disent entre 200 et 300 morts. C'est énorme, 200 morts, même 200 à 300 personnes.
Oh, moi, j'ai un chiffre, moi, j'ai beaucoup plus.
Plus important.
Mais bon, beaucoup plus important.
Très honnêtement, je reste sur le. Voilà. D'où la nécessité de d'ouvrir les archives. Pour qu'on y voit plus clair. Peut-être
absolument.
Que c'est plus. Peut-être que c'est plus.
Kader Chimane, rendez-vous donc à la place du 17 octobre 1961 à Saint-Denis. À quelle heure précisément?
Dimanche à 14h.
Allez-y, à Saint-Denis, 14h, dimanche. Kader Chimane, merci. Conseil régional d'Île-de-France, on rappelle Collège Les Verts, conseil municipal de Saint-Denis.
Bon courage à Beurre FM.
Membre de l'association du Cercle de Réflexion Citoyen. Merci à vous, Kader, et au plaisir, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
19h14, bientôt 15. Nous allons marquer la première pause pub. On se retrouve 01 53 48 3000. Éric Zemmour, est-il un danger pour la France? C'est la question que je pose. Hier, vous étiez nombreux à nous appeler. Et vous avez voulu poursuivre le débat. Eh bien, écoutez, je le remets. Et je voudrais vous entendre partout en France me dire est-ce qu'Éric Zemmour est un danger pour nous? A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Le marathon. Non, je disais le marathon parce que j'ai Jean-Claude Beaujour que je présenterai tout à l'heure. 19h19, bienvenue si vous venez de nous retrouver. Sachez-le, les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Le standard est ouvert. Et soyez les bienvenus. Nous démarrons direction Paris où je reçois Samir. Bonjour Samir. Bonsoir Samir.
Samy, bonsoir Madi. Ça va?
Oui, très bien. Et vous ?
Ouais, ça va. Oui, ça va, merci. Ça bon. Va, ça va. On va dire
alors,
ça va.
Samir, moi j'ai posé une question. Maintenant, il est temps aujourd'hui qu'on. Non, mais il est temps aujourd'hui qu'on partage, d'accord ? Avant que les élections, évidemment, commencent. La campagne commence, mais elle a déjà démarré. Est-ce qu'Éric Zemmour, finalement, il risque pas de se retrouver le principal danger de notre République ? Hier, j'avais une auditrice qui disait non. Elle était pro-Zemmour.
Elle était pro-Zemmour. Mais moi, je suis contraire de cette auditrice. Hier, j'ai pas entendu pour le coup. Mais non, moi, je vais être le contraire. Non, il représente un danger, si ce n'est que là, en fait, même s'il n'est pas candidat, pour moi, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger ? Comme je viens de le dire, il n'est pas déclaré candidat, et quand on voit les sondages et les pourcentages qu'il peut avoir, ça fait peur.
Oui. Sans 18%, candidat, hein, Samir. Hein.
18%.
Et vous êtes jeune, vous ? Ça se s'entend.
Je suis jeune, oui, j'ai la trentaine.
Ouais, justement. Donc vous êtes jeune, donc ça s'entend. Et puis non, mais ça m'intéresse, les jeunes, que les jeunes s'expriment. J'aimerais connaître votre opinion.
C'est pour ça que j'ai appelé, parce que c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué. Moi, j'ai interagi avec vous quand on parlait de Boutet, c'est pas très longtemps.
Oui.
Mais c'est vrai que moi, j'ai une double casquette, dans le sens où ça fait quelques années que je suis en France, et là, je me retrouve encore dans des choses qui me paraissent en fait familières, dans le sens où on est face à une situation extrêmement compliquée. Parce
ouais.
Que je sais que moi, quand j'étais un peu plus jeune en Algérie, on a eu... Enfin, moi, j'ai connu que Boutet. Du coup, c'était compliqué. Et maintenant, c'est autre chose, mais c'est l'extrême. C'est de se dire que là, maintenant, cette fois, en tant qu'étranger ici, et musulman en plus, c'est-à-dire que c'est complètement l'opposé de ce que veut Éric Zemmour.
Ouais,
c'est complètement
ouais.
Un obstacle pour lui, là.
Ouais. Donc, vous là, êtes inquiet, c'est ça ?
Moi, je suis inquiet pour la France, vraiment. Ouais. Je suis vraiment inquiet parce que c'est compliqué. Même le climat, ce climat dans lequel on vit, il est tendu, il est compliqué. Je sais pas, ça me fait peur. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur.
Écoutez, on va suivre tout ça. Non, autant de fois qu'il le faudra, on le traite. Enfin, on va le traiter.
J'espère surtout que.
J'allais dire on le traitera, mais parce que je voulais pas qu'il y ait de malentendus. Enfin, merci Samir.
Ça va changer en tout cas, j'espère en tout cas.
Voilà. Restez. Merci pour votre fidélité, Samir. Je vais aller direction Lyon. 01 53 48 3000. Rabat le Lyonnais, comment ça va Rabat ? Bonjour Rabat. Rabat, vous nous entendez ? Il y a un problème de connexion Rabat. 01 53 48 3000, tout de suite, je vais présenter Jean-Claude Beaujour. Bonjour mon cher maître, comment ça va ?
Bonsoir, très bien.
Ça va ? C'est la tournée, c'est le marathon ce soir là ? Vous faites, vous venez chez vous, les informer, ensuite c'est nous.
Vous
continuez votre petite périple quoi.
La campagne s'accélère, les jeux et les gens se placent, donc il faut bien réfléchir. Et par rapport à ce que vient de dire le précédent auditeur, moi j'aurais envie de répondre que je ne suis pas inquiet. C'est l'occasion d'avoir un débat.
Ouais.
S'il y a des positions qui peuvent heurter, c'est aussi parce qu'à droite comme à gauche, on n'a pas très bien fait le job, qu'on n'a pas vu la souffrance du pays, qu'il y a des tas de choses derrière tel ou tel candidat. Et le sujet aujourd'hui, c'est quelle société proposons-nous et proposerons-nous lors des prochaines élections. Et j'ai envie de dire aux uns et aux autres, ceux qui ont peur, par exemple, eh bien, il faut, un, se remettre à militer, parce que la politique n'est pas sale, la politique, c'est la vie de la cité, se remettre à militer, proposer des idées, s'imposer dans les quartiers, dans les municipalités.
Oui, mais, mon cher maître, ça se comprend quand Samir est dit, tout... non, mais attendez, vous n'avez pas le même regard, vous êtes un politicien, vous êtes un acteur politique, pardon. Vous la vivez, la chose politique. Lui, il arrive avec son petit regard en se disant « Je suis inquiet parce que je suis un simple citoyen de ce que j'ai compris de Samir.
Ouais. »
Et il arrive comme ça, effectivement, en regardant cette omniprésence d'Éric Zemmour, il se dit « tout peut arriver. »
Je vais vous répondre. Je vais vous répondre.
Et il n'a pas tort.
Je vais vous répondre. La réponse
Trump est,
oui, parce
est arrivé
que
comme ça.
Justement, moi, je suis étranger. Lorsque je suis aux États-Unis, je suis étranger. J'étais là la nuit où Donald Trump est arrivé au pouvoir. J'ai vécu dans d'autres pays. Où on est étranger, je sais ce que c'est qu'aller faire la queue pour avoir ses papiers. Que ce soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, je sais ce que c'est.
Je présente après Emmanuel Dupuis et puis Naïga, n'est-ce pas ? Stéphel,
c'est ça.
Dans une poignée de minutes, Rabat de Lyon, on l'a retrouvé, ça y est, on l'a rattrapé, au bon. Bonjour Rabat, bonsoir.
Oui, bonsoir, comment allez-vous ?
Mais très bien mon cher Rabat, je vous écoute.
Oui, c'est un très très grand danger. C'est pire que Trump et voilà.
Ah oui, vous dites c'est pire que Trump, vous.
Ah oui, il va faire du mal pas qu'aux musulmans, il va faire du mal pour les Français, pour le tiers du monde, hein.
Pour le Maghreb. Alors dites-moi, vous êtes inquiet comme Samir, vous aussi, vous posez des questions, vous interrogez?
Personnellement, je vais vous dire franchement, moi je suis chauffeur routier, je suis de nationalité française. Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais bon, ils vont emmerder.
Il va vous demander de changer votre prénom.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, ça fait pas.
Vous allez plus vous appeler Rabat, vous allez vous appeler, je sais pas.
J'ai vu sur internet, je vais m'appeler Jacquemin.
Jacquemin, ouais, c'est pas mal, Jacquemin. Je vous appellerai Jacquemin désormais.
C'est la folie, c'est fanatique et les sondages, je sais pas qui c'est qu'ils ont interrogé, mais les sondages qu'ils interrogent, je sais pas, c'est toujours les mêmes qu'ils interrogent.
Oui, c'est pas faux.
Et le problème qu'il y a, c'est que les gens qui sont français de nationalité maghrébine, il faut qu'ils aillent voter.
Bon, vous avez tout dit, Rabat. Il faut aller voter. Vote, mon pote, exactement. Merci, Rabat, et bonne route. Hein.
Merci, ciao.
On va aller dire, ils sont Sartre, tiens. Mimoun, bonsoir, Mimoun. Mimoun, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de la Sartre. Je vous écoute.
Oui. Oui, s'il vous plaît, moi, je vous appelle à propos du sujet-là. Donc,
oui.
Je suis d'accord avec Samir, qui vient de partir tout à l'heure.
Oui.
Donc,
vous avez vu, Jean-Claude, tout ça, il y a de quoi cette inquiétude, oui.
Ça représente un grand danger pour la République. Quand il a parlé de changer les prénoms, il doit savoir que là, ce n'est pas les prénoms qui font le monde.
Oui.
C'est la compétence.
Ça, c'est pas faux.
Ça, c'est la compétence. On trouve des étrangers
dans une ville. Je vous entends mal, hein, Mimoun. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il doit y avoir. Vous parlez comment? Vous parlez avec un haut-parleur ou.
Oui, vous m'entendez bien maintenant?
Un peu mieux. Hein.
Un peu mieux.
Oui. Allez-y, parce que vous êtes nombreux à nous appeler. Allez-y.
Donc, je vous dis, Adèle, Zemmour, ça représente un grand danger pour la République.
Oui.
Quand il a parlé de changer les prénoms du musulman, du machin, c'est un fou, hein. Parce que on voit, c'est pas les prénoms qui font la différence, c'est les compétences de chaque personne.
Oui.
Il y a des maghrébins, des ingénieurs, des pilotes, des avocats, des juges.
Mais on vit il a pas tort. Donc, on vit de la moitié de juste l'Île-de-France, de tous ces. Il restera plus rien. Mais c'est vrai, Mimoun, c'est vrai. C'est très juste ce que vous dites et c'est pertinent. Ça s'appelle la réalité du terrain. Merci, Mimoun, et vive la Sarthe.
Merci, Adil, pour tous les sujets que vous passez à la.
Écoutez, on vous mettez la pression. On essaie évidemment de vous apporter au mieux et de vous informer. C'est pour ça que ça s'appelle les informer. Hein. Merci, Mimoun. Kamel, et merci pour votre fidélité. Kamel d'Aubervilliers. Et on retrouve Pascal Boniface tout de suite après. Mon cher Kamel, bonsoir, Kamel.
Bonsoir, c'est Kamel d'Aubervilliers.
Oui, Kamel. Comment ça va, Kamel d'Aubervilliers?
Toujours positif, mon ami, toujours positif.
Bon, alors c'est en étant positif, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur Éric Zemmour?
Je ne le calcule même pas.
Vous, c'est mieux, vous. Je ne le calcule pas, je le laisse parler. Qu'il fasse 18% ou 30%, c'est pas grave.
C'est pour vendre ses bouquins, cette merde, ses torchons,
oui.
Pour avoir des écrivains nègres pour lui.
Oui.
Et en plus, c'est la.
Vous avez quel âge, Kamel?
Moi, j'ai 72 balais.
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que cette émission est formidable. On passe d'un trentenaire, tout à l'heure, la semaine dernière, j'avais une jeune femme de 25 ans, à des. C'est intergénérationnel. Et c'est vraiment. C'est grâce à vous. Et c'est très encourageant.
Dans ma tête,
vous êtes jeune.
J'ai 30 ans, quoi. Dans ma tête,
restez 30 ans. Ne bougez plus. Dites-moi, Kamel, restez fixé à 30 ans. Maintenez la positive attitude et ne bougez rien. Merci, Kamel d'Aubervilliers. À très bientôt. Et merci pour votre fidélité. Tout de suite, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et après, on retrouve nos débatteurs, influenceurs qui sont avec nous. Mon cher Pascal Boniface, le patron de l'Eris. Bonjour Pascal.
Bonsoir Ali, tu vas bien?
Mais très bien. Merci infiniment. Vous avez décidé de parler de géopolitique ce soir. Et ce soir, vous nous parlez d'un sujet qui nous touche tous. C'est celui, de l'assassinat de Thomas Sankara. Je vous écoute. Excellente idée d'en parler. Hein.
Oui, effectivement, le procès des assassins de Thomas Sankara s'est ouvert il y a 2-3 jours au Burkina. Et donc, on va juger ceux qui l'ont commis cet assassinat, sauf que le principal suspect, Blaise Campoiré, n'est pas là. Alors, bien sûr, est-ce que cela permettra de faire la vérité sur l'assassinat de quelqu'un qui reste un mythe quand même?
Oui.
Il y a quelques mythes en Afrique. Patrice Lumumba, Nelson Mandela et Thomas Sankara.
Ouais. Thomas Sankara, c'est quelque chose quand même. Hein.
Oui, oui. Je dirais qu'il incarne pour beaucoup de générations. Il a d'ailleurs rebaptisé son pays, le pays des hommes intègres, pour montrer son intégrité. C'est vrai qu'il a eu un impact. C'est un peu une sorte de Che Guevara, mais qui serait resté 4 ans au pouvoir et qui a fait beaucoup de choses en 4 ans.
Oui.
Pour l'égalité homme-femme, pour l'égalité aussi entre les différents Burkinabés. Il ne voulait pas. Il est très connu qu'il avait vendu la limousine et roulé en R5, ce que assez peu de dirigeants africains font. Il avait un mode de vie très modeste, qui n'est pas non plus la règle généralement en Afrique, et donc il dérangeait beaucoup de monde. Et est-ce que ce procès, qui malheureusement n'est pas filmé, va permettre de découvrir la vérité? Est-ce que ça sera un pis-aller? Parce que toutes les théories circulent, quand il n'y a pas d'information, le complotisme, bien sûr, règne. Mais il est certain, en tous les cas, que Thomas Sankara a été assassiné, et il est certain qu'il dérangeait beaucoup de monde.
Il dérangeait énormément de monde, notamment. Mais pour quelle raison, et principalement, j'ai envie de m'adresser aux géopoliticiens, pour quelle raison il dérangeait tellement? C'est pas que politique, Pascal Boniface.
Bah non, parce que, disons qu'il voulait effectivement, sur les relations Nord-Sud, avoir une relation plus égalitaire entre le Nord et le Sud, alors que la plupart des dirigeants du Sud acceptent le caractère inégalité des relations à condition que ça les serve personnellement. Et surtout, c'est un modèle parce que il n'y a pas eu depuis d'autres dirigeants
exact, c'est
qui
vrai.
Peuvent inspirer autant la jeunesse, qui peuvent être... Alors, bien sûr, il y a une part de mythe, hein, évidemment, la réalité était peut-être plus contrastée, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était inspirant. Inspirant par son intégrité et par le fait de refuser le luxe, les avantages, ce qui est très souvent les populations africaines reprochent leurs dirigeants. Et donc, voilà, je crois que c'est bien de se rappeler de sa mémoire, comme d'un exemple, qui puisse un peu servir d'exemple à d'autres et qu'on puisse se servir de ces personnages comme d'un levier pour le comportement des dirigeants actuels.
Mais c'est bien dit. Merci pour ce billet d'humeur, cette carte blanche. À la semaine prochaine avec autant de plaisir, mon cher Pascal.
À jeudi prochain, bien sûr.
À jeudi prochain. Merci à vous, 19h32. C'était le Quoi de Neuf. Emmanuel Dupuy, le président de l'IPSE, bonjour.
Bonjour, Adil. Bonjour,
comment ça va bien?
Ça va très bien.
Écoute, Naïga Steffel.
Plaisir, mon ami Pascal.
Exactement. Il vous écoute d'ailleurs, attention. Naïga, Steffel, bonjour.
Bonjour,
toute jeune conseillère, d'ailleurs, départementale, hein, n'est-ce pas? Val-de-Marne, élue à Vitry-sur-Seine pour le groupe Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qu'ils arrivent en force, ces écolos?
Il y a une urgence, faut dire. Hein,
faut ouvrir le micro, je l'entends très très mal, non? Qu'est-ce qui se passe?
Vous m'entendez bien?
Ah, c'est mieux, là.
Bah, il y a une réelle urgence, donc oui, on arrive en force, ce qui est tout à fait légitime, je pense.
Ouais. Maître Beaujour, que je ne présente même plus, puisqu'il il s'est emparé du micro tout à l'heure. Allez, messieurs, madame, tout de suite, un an après la mort de Samuel Paty, vous savez, des enseignants qui sont extrêmement inquiets du mode d'emploi sur la laïcité. Et on doit dire, c'est vrai que quand on regarde, évidemment, on ne sait plus du tout comment l'enseigner, on ne sait plus du tout comment en parler, et ça inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup les enseignants, au point où, si vous voulez, dans la foulée, le ministère de l'Éducation nationale a saisi la question en se disant aujourd'hui comment on doit renforcer l'enseignement moral et civique, comment on doit l'apporter, puisque évidemment les choses ont évolué. Naïga Steffel, je vous écoute, et ensuite après Emmanuel Dupuy et Maître Beaujour.
Alors, il y a plusieurs points. Effectivement, le drame de Samuel Paty doit nous amener à plusieurs choses. C'est déjà à, je dirais, ne pas remettre le drame de Samuel Paty uniquement sur la question de la laïcité, mais au contraire l'élargir à la question
Vous
des
pensez?
Libertés.
Oui, les libertés.
Oui. Il ne peut pas se réduire à la question des laïcités. Bien sûr que la question de la laïcité intervient dans le drame de Samuel Paty.
Oui.
Bien sûr que il faut absolument qu'on travaille.
Donc si vous dites ça, c'est quand même un sujet sensible. Hein.
C'est un sujet sensible.
Avec ce que vous voulez dire quand même, on voit bien là, vous prenez des pincettes. Donc sujet explosif.
Sujet explosif parce
ou sensible,
que
oui.
Mais sujet sensible parce que aujourd'hui on se doit d'accompagner les enseignants qui réclament un réel travail avec leurs élèves, avec les familles des élèves. C'est vrai que plusieurs points ont été mis en place. Aujourd'hui, les enseignants d'EMC, notamment d'histoire-géographie, n'ont pas plus d'heures pour aborder avec leurs élèves des sujets aussi sensibles que la laïcité. Il me semble que c'est ce qu'essayait de faire Samuel Paty, hein, avec ses élèves, justement, d'aborder la question des libertés, dont la liberté d'expression. Donc on ne peut pas réduire ce drame uniquement à la laïcité, mais au recul des libertés et à la liberté d'expression et surtout à l'acceptation des différences d'opinion. Absolument. Les uns avec les autres pour faire société.
Je veux vraiment qu'on en parle, parce que vous savez, Emmanuel Dupuis, c'est un des thèmes, de tous les thèmes évoqués d'ailleurs, la laïcité, vous savez quoi, reste un dossier et reste aujourd'hui un des chantiers les plus épineux. Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Déjà parce que c'est fondamentalement dans notre constitution. Et donc chaque citoyen français doit s'en saisir et en avoir conscience. Et depuis déjà plus de 116 ans, depuis 1905. Et accessoirement, la question de la laïcité n'a pas attendu la loi pour être au cœur de notre vivre ensemble, oui. Ou en tout cas notre capacité à ne pas opposer les religions entre elles et tout simplement d'avoir le droit de ne pas croire. Et croire étant bien sûr un droit que chacun a.
Alors pourquoi les enseignants sont inquiets ?
Ils
sont très inquiets.
On ne parle pas tout à fait de la même chose, Adil. La question de la laïcité ne se résume pas à un enseignement qui serait calqué sur un nombre d'heures limité. La question de la laïcité, c'est une question qui ne s'apprend pas, c'est une question qui s'accompagne tout au long d'une vie. Hein, Alain avait cette formule absolument.
Alors pourquoi ça devient un sujet sensible désormais ?
On le devient.
Alors pourquoi ça devient un sujet sensible désormais ?
Mais c'est pas désormais.
Mais
ça fait plus de 100 ans que c'est un sujet sensible.
Non, mais je parle avec les gamins aujourd'hui, avec les collégiens, avec les lycéens, bien sûr.
Vous croyez que c'était pas sensible au moment où il s'agissait de s'opposer aux congrégations religieuses.
Sauf que là, je rappelle quand même, un an après, c'est l'assassinat de Samuel Paty.
Mais on parle pas de la même chose.
Je sais bien.
Et ben alors, justement, je vous répondrai à votre question. Allez-y. C'est pas juste une question de laïcité. Comme l'a dit ma camarade, c'est une question de liberté. C'est une question qui va beaucoup plus loin que le simple fait religieux. Samuel Paty n'est pas mort parce qu'il enseignait le fait religieux ou il récusait le fait religieux. Samuel Paty est mort parce qu'il a voulu apporter à ses étudiants la nécessité et les outils pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. C'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Et c'est pas une charte de la laïcité. Moi-même, j'ai travaillé à une charte de la laïcité déjà il y a 15 ans avec un adjoint au maire de Paris qui d'ailleurs s'impose, qui est présent dans toutes les mairies des arrondissements parisiens, de toutes les écoles d'établissements scolaires des arrondissements parisiens. Je crois que c'est très important d'avoir la conscience que ce qui s'est passé avec Samuel Paty déboule sur une autre question, la manière, la frilosité ou la fragilité de l'enseignement que l'on donne à nos étudiants ou à nos élèves. Moi-même, je suis universitaire, où parfois les questions sensibles sont reléguées à la fin du programme et à des temps trop courts pour être perçu comme essentiel et compris par les étudiants
19h37,
et les élèves.
19h37 avec un peu de retard, je dois lancer la pub. La dernière pub justement avant la dernière ligne droite, et je vous poserai la question justement sur est-ce qu'il y a une manière maintenant de l'enseigner justement la laïcité auprès des élèves. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h41, si vous venez de nous rejoindre. Alors justement, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Maître Jean-Claude Beaujour, Emmanuel Dupuis, Naïga Steffel, justement, Maître Beaujour, je ne vous ai pas entendu là-dessus sur la question de l'enseignement de la laïcité à l'école, et ensuite on installe pour, contre, etc.
Tout d'abord, de quoi parle-t-on ? Je rappelle que la laïcité, c'est vrai que c'est avant tout la liberté de conscience, ça garantit à chacun d'exercer sa religion s'il en a une. La garantie, c'est l'indépendance, l'indépendance de l'État vis-à-vis de quelques religion que ce soit, et puis surtout la liberté de conscience. Donc si vous voulez, au départ, alors c'est vrai qu'en 1905,
c'était pas... Mais on dirait que vous êtes en train de me réciter quelque chose que vous connaissez déjà.
Comment organise-t-on cette laïcité?
Ah, là je veux bien.
Et le problème, c'est que il faut que les uns et les autres sachent de quoi on parle, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'est que, au départ, en 1905, c'est vrai que c'était pas évident. Et puis, il y a eu un motus operandi sur la façon dont allait s'exercer. Moi, je me souviens que, par exemple, le général de Gaulle refusait de se faire photographier allant à l'église, au nom de cette neutralité. Donc, la question que nous avons, elle est d'une, comment est-ce qu'on conçoit en, au XXIe siècle la laïcité, parce qu'en même temps on a un certain nombre de juridictions qui se sont exprimées sur la, la liberté individuelle, etc. Et puis deuxièmement, comment est-ce que c'est enseigné à l'école? Il faut en faire une question de principe et ne pas simplement dire on va donner trois heures.
L'enseigner ou dialoguer?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Enseigner et dialoguer. Enseigner et dialoguer. On dialogue, chose, hein. Oui, enfin, mais on dialogue pas à partir de rien.
Ça peut paraître très clair. Ça peut paraître très clair pour nous ici autour de la table. En revanche, il y a un vrai sujet et la sensibilité émane sûrement de ça. C'est aujourd'hui pour le citoyen et la citoyenne lambda. Qu'est-ce que représente la laïcité? Alors oui, vous nous avez donné la définition juste et théorique de ce qu'est la laïcité. La laïcité, ça doit être un outil aujourd'hui avec toutes les définitions très justes que vous en avez données, l'outil du débat en fait, l'outil de pouvoir exprimer tous ces points de vue, l'outil de pouvoir débattre ensemble de manière
c'est
pacifique et
sereine. C'est pour ça qu'il faut commencer par donner la définition et dire comment, de manière très concrète dans la vie au quotidien, comment ça s'exprime. Et je vais vous dire, c'est vrai que moi, petit, j'ai toujours appris que je ne devais pas porter de signes ostensibles religieux dans l'espace public. C'est comme ça que et pourtant, nous étions extrêmement croyants. Mais quand j'allais à l'extérieur, pas de signe extérieur.
Quand j'étais gamin, c'était pareil.
Voilà. Et ça nous convenait très bien. Alors, c'était ça le motus operandi.
Emmanuel Dupuy.
Alors là, c'est l'ancien responsable, un des responsables du comité de laïcité république qui va parler. La laïcité ne se résume pas au champ religieux. La laïcité, c'est l'égalité de tous.
Aussi.
Alors, c'est l'égalité des genres, c'est l'égalité des âges, c'est l'égalité de toutes les différences. Ça, c'est un fait important. On a tendance en France à résumer la laïcité au fait religieux, parce que c'est celui qui est le plus marqueur, qui pour certains est même un identifiant sociétal. Mais la laïcité, c'est aussi permettre à des gens qui n'ont pas forcément accès à un certain nombre d'emplois, qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes acquis. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français. La laïcité est consubstantielle du principe de république. Nous ne sommes plus qu'une démocratie, nous sommes une république. C'est-à-dire que nous avons un acquis, un ADN, avec les mêmes chances. Le but, c'est que cet ascenseur puisse se faire de manière équilibrée pour tous. Il est vrai que parfois,
pour bien des dans le faits
micro. Sociétaux ou par rapport à une politisation, mais après tout, cette politisation a toujours existé depuis la Révolution française. Vous savez que la laïcité est inscrite dans notre Constitution par la Constitution à partir de 1905. C'était pas une constitution à l'époque. Puis, à partir de la constitution de 1946, puis dans le préambule de la constitution de 1946, puis 1958, mais que la laïcité est consubstantielle de ce qui fait la différence entre un citoyen et un sujet. Accessoirement, c'est ce qu'a fait notre révolution. Donc, il faut bien rappeler aux Français que c'est pas juste une question conceptuelle. Bon. Que quand vous êtes en France, vous avez des droits et des acquis, des droits et des devoirs. Quand vous vivez dans un certain nombre de sociétés, vous devez respecter la neutralité. Et donc, ce n'est pas seulement que la neutralité religieuse. C'est la neutralité aussi d'expression.
Ouais. Parfois, c'est ce qu'a rappelé Jean-Claude Beaujour. Mais il vient de le rappeler.
C'est
une
liberté, c'est ça qui est important.
Mais la liberté, évidemment. Mais je vois vraiment pas où est la différence. La liberté.
La neutralité, la liberté, vous ne voyez pas de différence.
Mais bien sûr que. Mais attendez. La liberté, c'est le droit de croire, de ne pas croire. Le droit d'être pas d'accord avec vous. Ou d'être d'accord avec vous.
Exactement.
Donc c'est bien ce que je dis, c'est absolument pas différent.
Donc vous voyez, des visions quand même différentes. Hein.
Non,
Jean-Claude Beaujour.
On met pas les mêmes mots.
J'ai bien compris. C'est pour ça que le dialogue est important.
Bah oui.
Jean-Claude Beaujour, et on doit avancer s'il vous plaît.
Vous voyez, je crois que le vrai sujet, parce qu'on voit bien que finalement on n'est pas si loin sur les définitions, sur les fondamentaux, c'est dans la mise en œuvre. Et qu'est-ce qui est acceptable pour le plus grand nombre d'entre nous? Là où aujourd'hui on vous dit, ben finalement, j'ai la liberté, et effectivement, ce qui passait pour acceptable hier, je n'ai pas de signe extérieur religieux. Aujourd'hui, on vous dit, mais au nom de la liberté, je peux mettre mon signe extérieur religieux, je ne porte pas atteinte, puisque précisément, je peux exposer ma religion. Et c'est là où nous avons un dialogue à établir, c'est qu'est-ce qui est acceptable. Et je pense que derrière cela, l'idée, c'est de dire, on refuse d'être une société religieuse.
La sonnette est là pour me rappeler qu'on doit avancer. 19h47, et oui, 17 octobre 1961. Il y a beaucoup, beaucoup, j'ai ouvert l'antenne tous les jours. Toute cette semaine, je fais une spéciale concernant le 60e anniversaire, chers amis. Le 17 octobre 1961, c'est un devoir de mémoire. Souvent, les auditeurs me disent qu'il y a un vrai devoir de mémoire à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça a été longtemps occulté? Est-ce que le chef d'État doit s'exprimer? Est-ce qu'il doit faire un communiqué? Est-ce qu'il doit aller faire une commémoration? Est-ce qu'il doit aller... Bref. Naïga, Stéphane.
Ce qui est grave, c'est quand même de se poser la question encore en...
Votre micro est bien ouvert? J'ai l'impression que non, hein, des fois.
Oui. Vous entendez?
Oui.
Ah, ok. Ce qui est grave, c'est quand même là, encore mieux. Aujourd'hui de se poser la question. Est-ce que le chef d'État... Bien sûr, il y a un réel devoir de mémoire et ça devrait se
la
faire
naturellement. La question se pose.
Naturellement.
Peut-être qu'il va se poser... je ne sais pas. Je pose la question à vous.
Eh bien, aujourd'hui, je pense que pour avancer, il ne faut pas occulter les crimes et l'histoire de notre pays. Pour avancer et faire société ensemble, le devoir de mémoire doit être une évidence.
Et s'il la commémore
et une responsabilité
avec un geste,
de nos gouvernements.
S'il la commémore, le chef de l'État, avec un geste et des mots, sans déclaration.
Mais s'il y en avait eu avant, ça aurait été largement suffisant. Aujourd'hui, on attend qu'il y ait de vraies déclarations et une vraie reconnaissance. En fait, un geste n'est pas suffisant. Il y a un besoin et il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de déclaration. Aujourd'hui, il est le chef du gouvernement, il se doit de porter cette déclaration.
Emmanuel Dupuis.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais enfin, la géopolitique impose quand même un peu de, comment dire, de diplomatie dans, dans le contexte dans lequel on se trouve, vis-à-vis justement du pays dont évidemment la question est un petit peu sensible.
Où les temps sont réunis.
Je suis très diplomatique en disant ça. Bien sûr, moi je suis un partisan, évidemment, de la responsabilité, de l'incarnation de ce que peut être une parole forte par le haut et qui, d'une certaine façon, va instiller une obligation à faire mémoire ou faire société.
Sans détour, il doit s'exprimer.
Oui, mais en étant un petit peu plus subtil, et je reprends ma pensée initiale, que les précédentes prises de parole concernant le pays en question. Parce que force est de constater qu'il n'a pas été très diplomate ou très subtil dans ses prises de parole. Donc une prise de parole mesurée, une prise de parole qui doit s'inscrire dans le long travail d'introspection, de part et d'autre et des deux rives. Et ça, je crois qu'effectivement, il sera dans ce rôle de président de la République. Après tout, c'est le rôle d'un président de montrer l'exemple. Et c'est ça la parole présidentielle qu'on attend au-delà des éléments de campagne.
Jean-Claude, bonjour, maître, bonjour.
Je ne crois pas en effet que regarder l'histoire en face soit synonyme d'être en permanence en culpabilité, parce que j'entends aussi ce qui se dit, on dit oui mais on a l'impression qu'on est dans la repentance. Moi je pense que regarder l'histoire, premièrement c'est scientifique, on regarde des faits et puis on les juge tels qu'ils sont, et je crois que Benjamin Stora avait fait un certain travail.
Oui.
Au-delà de ce qui vient d'être dit, je pense que le point principal c'est finalement la réconciliation entre la France et l'Algérie. Mon collègue a dit l'autre pays, il n'a pas dit l'Algérie, donc moi
j'ai voulu éviter
c'est un diplomate. Moi je dirais que le vrai sujet c'est la réconciliation entre la France et l'Algérie. Qui se pose.
Ça passe par là, maître
Ça
Beaujour.
Passe par là, et je dirais peut-être une vraie réconciliation, bien sûr qu'on n'est pas en guerre, mais une vraie réconciliation. Et je pense que malheureusement, on a encore des stigmates de cette guerre d'indépendance, on a de part et d'autre, et c'est compliqué. Je pense que c'est là-dessus où il faut qu'on ait un vrai
Sauf
débat.
Sauf que là, ça se passe en France, pardonnez-moi maître Beaujour, et vous êtes avocat.
Oui.
On l'a jeté, évidemment, exactement. À l'époque, je
sais bien que ça se passe je viens de vous dire que je suis pour le fait qu'on regarde l'histoire en face, point. Maintenant, derrière tout cela, enfin, c'est plutôt moi qui suis dans le vrai. Le vrai sujet, c'est la réconciliation entre la France et l'Algérie. On va pas tourner autour du pot.
C'est vrai, non, faut pas tourner autour
du pot. Et tant qu'on n'abordera pas cette réconciliation, cette réconciliation de manière honnête et dépassionnée de part et d'autre, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Oui, c'est vrai. Emmanuel Dupuis.
C'est pas tout blanc, tout noir de chaque côté.
Non, c'est pas tout blanc.
Faut pas se raconter d'histoire. Moi, je connais un peu l'Algérie. C'est pas tout blanc, tout noir.
Alors, Emmanuel Dupuis, et vous finissez.
Bon, déjà, un petit rappel historique. Hein. 1848-1961, l'Algérie, c'était la France.
Oui.
Donc c'est évidemment un cas qui concerne la France et l'Algérie. Et je crois qu'il faut évidemment regarder cela en face.
Oui, en faveur de l'indépendance à l'époque. Ouais, voilà.
Entre 1848 et 1961, c'était un département français.
Exactement.
62 départements français. Le seul département. Les deux autres, c'était les consulats et les autres, des colonies. Donc ça, c'est un fait important. Donc c'est une histoire qui doit être regardée ensemble. Et je crois que la prise de parole du président doit aussi nous rappeler un petit élément qui me permet de basculer sur la précédente polémique entre les deux pays. C'est pas tant la prise de parole du président seul qui est importante, c'est que les peuples comprennent qu'ils sont pris dans des jeux politiques avec un leadership de part et d'autre qui va instrumentaliser.
C'est pour ça que je parle de réconciliation. C'est
le moment. Jean-Claude.
C'est le
la réconciliation entre les Algériens et les Français.
Bien sûr.
Accessoirement, oui. Tous ceux qui ont pris le chemin des routes, les rues d'Alger en février 2019 en Irak, oui. Ils sont à peu près sur la même tonalité du président quand il dit qu'il y a un leadership algérien qui ne correspond pas tout à fait à leur attente ou à leur aspiration à la démocratie.
Naïga,
ça, il faut
Naïga,
l'entendre.
Naïga,
au-delà de ça, et effectivement, je vous rejoins sur ces points, mais au-delà de ça, il y a quand même aussi la réconciliation avec les personnes aujourd'hui françaises et français d'origine algérienne qui attendent une réelle reconnaissance de la part du chef du gouvernement de ce pays et un devoir de mémoire du massacre qui a eu lieu. Et on n'est pas uniquement que dans... Alors, ça fait partie aussi de la responsabilité, effectivement. Mais il y a aussi quelque chose qui se porte aussi au peuple français, aujourd'hui, originaire d'Algérie, qui a besoin, comme beaucoup d'autres peuples, je pense aux tirailleurs sénégalais, qui ont besoin de ce devoir de mémoire et de cette reconnaissance.
Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler à cette réconciliation entre les deux peuples.
Oui, aussi, ça passe par là.
Mais ça sera un instrument.
Ça y est, on est arrivé au terme de cette émission.
Vous nous sortez.
Merci Adil.
Vous nous renvoyez.
Mais vous allez revenir en parler, les amis, le micro est ouvert.
Vous faites comme Yann Brossard, en fait, vous nous ramenez au côté professoral.
C'est un licenciement sans préavis.
Jean-Claude Beaujour, avocat, merci maître. Merci. Au plaisir, à très vite. Emmanuel Dupuis, patron de l'IPSE, au plaisir. Naïga Steffel, conseillère départementale dans la ville de Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine, au plaisir.
Au plaisir, Adil, à très vite.
À la réalisation, c'était Yanis. C'est pas Bilal, c'est son collègue qui prend le relais, justement pour venir parler de Timescopeport. Il est où il va venir nous donner le sommaire. Tiens, viens nous donner le sommaire. Viens nous donner le sommaire de Timesport. Tiens, viens nous donner le sommaire de Timesport. Vite, il nous reste quelques secondes. Viens nous donner le sommaire de Timesport. Comment ça va, cher camarade?
Bonsoir.
Timesport au menu ce soir,
Qu'est-ce qui nous attend? Bah écoute, il y a eu un match de charité hier soir, notamment au Vélodrome. Donc il y a Abdel qui est avec nous, qui va nous en parler parce qu'il était sur le terrain. On parlera également de la Ligue 1 qui passe à 18 clubs. Et puis voilà, de la passion, du sport. Bref, et puis de l'émotion.
On vous attend dans l'émotion, j'aime ça. C'est ça le sport, c'est l'émotion.
Sans émotion, t'as rien.
À demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.